notre dossier sur le thème du lâcher-prise. Ce dossier vient d'être publié dans le magazine Les Trois Mondes, numéro 29, que vous trouverez chez votre marchand de journaux. Valérie Colin-Simard, je vais vite là, hein. Valérie Colin-Simard, dans votre article, vous expliquez que pour sortir de l'impasse de la souffrance, il y a un chemin à parcourir, celui bien sûr du lâcher-prise, mais aussi de la reconstruction intérieure. En deux mots, puisqu'on va développer au fil de cette émission ce thème, quel est ce chemin?
Alors j'ai en effet rencontré 9 personnes que j'ai interviewées de manière très approfondie. Ce sont 9 personnes qui ont traversé une très grave épreuve et qui sont, de leur propre aveu, qui en sont sorties plus fortes. Et j'ai voulu savoir comment elles s'étaient reconstruites. Et j'ai pu constater qu'entre tous ces témoignages, il y avait d'évidents points communs. Donc effectivement, j'ai dégagé 7 étapes de reconstruction par lesquelles il faut passer pour se reconstruire.
Donc un chemin en 7 étapes.
Un chemin en 7 étapes.
Est-ce que ça veut dire que ce chemin est accessible et praticable par tout le monde?
Ah, absolument par tout le monde. Alors tout le monde, j'allais dire malheureusement, ne le suit pas. Malheureusement pour eux, mais car beaucoup restent bloqués en chemin, ne savent pas qu'il y a une étape suivante à passer, ils restent à une étape, par exemple, la première étape.
Sur la victimisation.
Voilà, c'est ça.
Rester
victime. Donc la victime, c'est très important d'être une victime à un moment donné. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de difficile, on peut et presque on doit se sentir victime dans un premier temps, mais il faut aussi savoir lâcher prise.
J'aimerais savoir, et c'est vraiment un point de curiosité de ma part, est-ce que vous avez été éclairé sur votre propre démarche personnelle de femme, d'être humain, en écoutant ces témoignages?
C'est effectivement une très bonne question. En réalité, ça s'est passé un petit peu à l'inverse. C'est parce que j'avais moi-même vécu une épreuve qui n'est heureusement pas aussi grave que celle que j'ai décrit dans ce livre, et que j'en suis sortie plus forte, que j'ai eu l'envie de faire partager à d'autres ce que j'avais découvert. Et ce que j'avais découvert, c'est en effet qu'on se sort plus fort d'une épreuve.
Vous les avez, ces témoins, essentiellement écoutés, ou bien vous avez conversé avec eux, et du coup votre apport personnel a pu les aider à faire émerger les fameuses 7 étapes de leur cheminement?
Non, j'ai pas du tout influencé leur. Je les ai beaucoup écoutés. C'était peut-être de l'ordre de pas de la conversation. Non, c'était vraiment de l'écoute. J'ai essayé en journaliste de leur poser des questions, mais je ne crois pas du tout. Et je suis même sûre de ne pas avoir du tout influencé leur discours. Ce sont de toute façon des personnes que j'avais choisies parce qu'elles-mêmes avaient une distance par rapport à ce qu'elles avaient vécu, parce qu'elles avaient déjà elles-mêmes réfléchi sur ce qu'elles avaient vécu. Donc je n'avais pas du tout de possibilité de les influencer.
Et ce chiffre de 9 témoins dans votre livre, c'est le hasard ou bien vous êtes dit, tiens, c'est 9 que je veux parce qu'il y a une symbolique derrière ce nombre?
On m'a surtout posé la question sur les 7 étapes. On m'a dit quelque chose de très joli que j'ai pas fait consciemment. Et on m'a dit, les 7 étapes, c'est comme les 7 jours de la création. J'ai trouvé ça très beau.
Oui, très important.
Et c'est vrai que j'ai pas choisi ce chiffre 7 par hasard, mais c'était ni le chiffre 9 non plus, mais c'est plus de l'ordre de l'intuitif que d'une décision consciente. Mmh. Au bout de 9 témoignages, j'ai senti que je pouvais commencer à tirer des leçons.
Très bien. Valérie Colin-Simard, nous allons développer donc avec vous dans quelques minutes les différentes étapes du lâcher-prise. Et merci en tout cas de partager avec nos auditeurs votre expérience et de faire partager également à nos auditeurs l'expérience de ces 9 témoins. Et nous allons y revenir maintenant après ces quelques secondes de jingle. Il n'y en a pas de jingle. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire, Daniel? On va passer au sommaire de cette émission. Au sommaire, donc, eh bien, on va passer par l'air du temps, c'est notre sélection des musiques inspirées. Tiens, voilà la musique, écoutons-la un petit peu. Je vous disais qu'on allait écouter l'air du temps, c'est notre sélection des musiques du mieux-être, suivie du jeu des questions qui vous permettra de gagner des places de spectacle et également des livres d'art. Daniel Gentil interviendra pour notre séquence témoignage, suivra la revue du magazine, puisque Les Trois Mondes, pour le bien-être du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est votre vie quotidienne sous l'angle du bon sens et de la spiritualité vivante. Les Trois Mondes, c'est 72 pages d'articles et aujourd'hui notre dossier est Lâcher prise pour libérer vos énergies. Le numéro 29 vient de sortir. à la fin de notre émission, la chronique à la page vous fera découvrir notre sélection de livres. Et enfin, nous terminerons par l'agenda des manifestations à Paris et nous recevrons le créateur d'un spectacle tout à fait original qui vous permettra de renouer avec votre sagesse endormie. Voilà pour le sommaire de cette émission. Dans quelques secondes, retour à notre invité Valérie Collin-Simard et notre dossier Lâcher prise. Valérie Collin-Simard, vous êtes l'auteur d'un livre de témoignages publié chez Anne Carrière, intitulé « Plus fort que le destin ». Vous avez été à la rencontre de personnalités plus ou moins connues, connues c'est Jacques Salomé par exemple, et puis un petit peu moins, ce serait peut-être Marie-Lise Labonté, quoi qu'elle commence à être très très connue, cette Québécoise en France. Et vous avez recueilli leur témoignage sur la manière dont chacun a su transformer une épreuve en victoire. Alors Valérie Collin-Simard, avant ces rencontres, je dirais même avant de rédiger ce livre, quelle était votre définition du destin, votre perception du destin?
Alors, vous voulez dire avant de rédiger ce livre ou avant de traverser les épreuves aussi? Parce que c'est très différent.
Alors, avant de traverser les épreuves.
Voilà, je pense que c'est plus... Écoutez, voilà, au départ, j'étais comme tout le monde, j'allais dire, je ne sais pas, mais en tout cas, je pensais que... En tout cas, j'avais très peur que le destin soit une fatalité.
D'accord. Mmh. Et quelque chose d'inéluctable.
D'inéluctable, que l'on subit, dont on est victime, justement. Et j'ai vraiment découvert à travers ce livre qu'il n'en était absolument rien et qu'on pouvait transformer son destin en destinée.
Et donc, l'épreuve que vous avez vécue, en tout cas, comme tout un chacun, évidemment, vous a permis de redéfinir plus positivement ce destin?
Oui, et puis ce livre, surtout, m'a permis de redéfinir de ce qu'était un destin, en effet.
Alors, vous êtes passé d'un destin fatalité à un destin...
Destiné.
Destiné, c'est-à-dire? Destiné ou destiné?
Ah, c'est très joli, oui. Destiné par soi-même et destiné. Jung avait une très très belle définition du destin, je ne m'en souviens plus mot à mot, mais en gros il disait que tout ce qu'on n'acceptait pas de soi-même à l'intérieur, on le vivait à l'extérieur. Mm-hmm. Et donc c'est un petit peu ça le destin, et justement c'est de comprendre ce que l'on vit à l'extérieur, mm-hmm, pour le transformer en quelque chose que l'on vit.
Il y a une expression qu'on entend souvent, c'est en fait c'est plus fort que moi. Alors que là, vous dites dans ce livre que finalement, les gens ont dit « Moi, je serai plus fort et je suis plus fort que le destin. » Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, ce destin peut prendre la forme qu'on décide qu'il doit prendre?
Oui, sauf que en ces termes, ça, effectivement, ce qui se passe, c'est plus de l'ordre, en effet, du lâcher-prise, qui correspond plus que de la décision volontaire. La décision volontaire, c'est plutôt de décider d'être du côté de la vie plutôt que du côté de la mort. Ça, c'est une décision profonde que l'on doit prendre intérieurement, consciemment ou inconsciemment. Ça, c'est oui. Il y a une décision très nette à prendre de ce côté-là. Mais pour le reste, c'est plutôt accepter de se laisser porter par ce destin dans un premier temps, même si on ne le comprend pas, mais de continuer à avoir la foi dans ce destin et de croire qu'un jour on va comprendre. C'est ce qui se passe en général.
Et ces 9 personnes que vous avez rencontrées, est-ce que vous considérez, puisqu'elles ont quand même... positivé ce destin, cette fatalité, elles l'ont transformé en destinée positive. Est-ce que vous pouvez considérer que ces personnalités sont des héros?
Non, clairement non. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire de ce que j'appelle un héros, parce que le héros, c'est un petit peu le surhomme, Superman, etc., alors que justement, c'est tout le contraire. Ces personnes ont su retrouver le chemin de leur humanité, leur expérience est passée par l'apprentissage de l'humilité, qui est un long chemin jamais terminé. Et donc on ne peut pas du tout dire que ce sont des héros, ce sont au contraire des êtres humains comme vous et moi, et on a tous en nous la possibilité de surmonter les épreuves que nous rencontrons.
Alors plus fort que le destin, plus fort, ça veut dire quoi? Plus malin, plus adaptable, plus intelligent, moins attaché aux choses, à la souffrance? Qu'est-ce que ça veut dire plus fort?
Alors oui, ça c'est déjà ne pas être attaché à la souffrance, c'est plus fort. Plus fort, c'est déjà arriver à intégrer son destin, arriver à le comprendre. Et par rapport à ce que je disais sur Jung tout à l'heure, c'est d'arriver à le comprendre et à le dépasser, à l'intégrer et à l'accepter, à s'accepter et accepter toutes les parties de sa personnalité. Être plus fort, c'est pas plus fort au sens fort, c'est plus fort au sens que c'est un peu comme un duel avec le destin. Mm-hmm. Oui, et on en est sorti plus fort parce qu'on l'a vaincu, on ne s'est pas laissé vaincre. Plus fort parce qu'on ne s'est pas laissé vaincre.
Est-ce que dans votre ouvrage, vous écrivez que votre livre repose sur une intime conviction que toute souffrance peut être transmutée en richesse? Alors cette intime conviction que vous aviez de cette possibilité de transmutation, de transformation, ça vient de votre expérience personnelle ou bien c'était juste une intuition comme ça qui s'est révélée à travers cet ouvrage?
Non, une intuition, ça ne suffit pas à être une conviction. Donc une conviction, c'est qu'effectivement, il y a une intuition au départ, et puis la conviction, c'est parce qu'on l'a vécu. Parce qu'on
l'a mis à l'épreuve
de la vie. Et de la réalité, et l'épreuve de la vie, absolument.
Vous parlez beaucoup des faits, justement. En général, ces faits sont essentiellement des faits concrets, tangibles, extérieurs à soi, ou bien ce sont des faits qui sont de l'ordre de l'attitude, du comportement, des croyances, donc plus intérieurs.
Les deux sont indissociables, c'est-à-dire qu'il y a les événements et il y a le regard que l'on porte sur eux.
Et qu'est-ce qui vous a personnellement motivé pour aller à la rencontre de ces neuf personnages, comme un Jacques Salomé ou une Marie-Lise Labonté, par exemple?
Vous voulez dire qu'est-ce qui...
Est-ce qu'ils étaient intuitivement des modèles pour vous? Parce qu'on ne va jamais à la rencontre des gens tout à fait par hasard, même si on a un répertoire très professionnel comme vous, où vous connaissez beaucoup de gens. Vous n'allez pas par hasard vers Jacques Salomé ou une Marie-Lise Labonté, pour ne citer que...
Oui, toutes ces personnes, c'est des personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui ont su retrouver le chemin de leur humanité. Je trouve que c'est cela dont on manque le plus aujourd'hui. Je trouve qu'on est dans une société qui est très déshumanisée, et que les personnes, en effet, que j'admire le plus, et sur lesquelles, en effet, j'ai le plus envie de prendre modèle, ce sont ceux qui ont retrouvé le chemin d'eux-mêmes et du cœur, et de la vie.
Est-ce que ça a été plus facile ou moins facile d'écouter Pascale Schenk, qui est en fait dans le magazine Psychologie co-rédactrice en chef, ou bien adjointe, je crois, à la rédaction, alors que vous-même, vous êtes journaliste dans ce magazine? Est-ce que c'est d'abord une amie, ou bien ça n'a pas été facile d'aller lui soutirer quelques confidences, en tout cas sur son témoignage?
Pascale Schenk est une des personnes, effectivement, qui a été la plus réservée. Mais non, effectivement, nous avons des relations aussi d'amitié, nous avons des relations d'abord professionnelles, mais aussi d'amitié. Mais là, lors de l'interview, c'est un petit peu hors du temps, c'est-à-dire que c'est un témoignage qui avait pour but, tout ce livre a pour but d'aider d'autres personnes. Et c'est une des dernières étapes toute naturelle de ce chemin de reconstruction. C'est que quand on est soi-même sorti d'une épreuve, on a tout naturellement envie de transmettre ce qu'on a compris pour que d'autres puissent en profiter.
Je repense au sous-titre de votre livre. Le titre, c'est Plus fort que le destin. Le sous-titre, c'est Comment ils se sont reconstruits. Alors, c'est un sous-titre qui suggère qu'il y a eu destruction pour qu'il y ait ensuite reconstruction. Et je me disais que reconstruction, c'est quand même un mot fort. Alors, destruction avant, ça c'est moi qui le dis, bien sûr. Est-ce que les personnes interrogées, ces témoins, ont eu le sentiment d'être passées par une phase de déstructuration, de destruction, voire
de
destruction?
Ah oui, clairement. Oui, oui, tout à fait.
Vous pouvez nous donner quelques exemples, justement?
Écoutez, la plupart des personnes que j'ai rencontrées qui se sont reconstruites sont passées par une expérience, j'allais dire, de la mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut toucher le fond. Il faut aller au bout de la piscine, au fond de la piscine, pour donner un coup de pied et remonter. Quoi. Mmh. Et c'est un peu... toutes les personnes que j'ai rencontrées ont dû, au cours de leur reconstruction, changer leur croyance, changer leur foi, changer tout ce qu'ils croyaient de la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est le plus profond en nous. C'est le regard même que l'on pose sur le monde qu'ils ont été obligés de changer. Et ça, c'est une petite mort. Donc il y a une expérience de destruction. Toutes ces épreuves leur ont servi à ça. C'est à changer leur regard sur le monde. Et ça passe par un moment donné d'une mort et ensuite une résurrection.
Alors cette résurrection, cette reconstruction, cette reconstruction dont vous parlez, elle en général, elle commence par quoi? Une fois qu'on est tout au fond, donner un coup de pied au fond pour pouvoir remonter, d'accord. Mais la reconstruction, il y a un tout début. Il y a un tout début de positif, de lumière, d'appel. Et en général, on s'accroche à quoi pour commencer à reconstruire?
Alors les deux premières étapes, on en a parlé. C'est renoncer à être victime, c'est donc décider d'être du côté de la vie et pas du côté de la mort. La deuxième étape, c'est de toucher le fond, très souvent, donc on vient d'en parler. Et la troisième étape, c'est la rencontre. Mais alors la rencontre, je dis souvent que quand on n'est pas prêt, on peut rencontrer Dieu en personne, on ne le verra pas. Donc c'est vraiment, il faut être prêt. Les deux premières étapes sont essentielles pour pouvoir passer à la troisième.
Vous dites la rencontre, c'est se rencontrer, mais c'est aussi rencontrer à l'extérieur de soi des gens qui peuvent aider à la reconstruction.
Voilà. Et même ça, je brûle même un peu les étapes, parce que la troisième étape, c'est plus accepter le principe que l'on a besoin d'aide. Mm-hmm. Et la plupart de ces personnes qui sont dans l'épreuve refusent ça et disent jusqu'au bout, je vais m'en sortir seule.
D'accord.
Et donc accepter de l'aide, ça demande beaucoup d'humilité. Accepter qu'on ne peut pas s'en sortir seul, qu'on ne va pas s'en sortir si on continue à tourner en rond autour de son épreuve et qu'on a besoin d'aide. Donc avant même de rencontrer quelqu'un, il faut être prêt à le rencontrer.
Très bien. Merci beaucoup Valérie. On va écouter maintenant pendant quelques minutes Nicole Rieux avec son dernier album Âme du Monde qui vient de sortir chez, j'ai oublié mais je vous le dirai tout à l'heure. On écoute Nicole Rieux.
Et quand elle bat le mille, elle suit la cadence, elle s'endort presque aussitôt. Quand elle va chercher l'eau, on dirait qu'elle danse, le soleil est dans sa peau. Tout son corps est pétri d'amour, de violence, de traditions et de mots. Femme brûlante, femme brûlante dans le monde, femme funérante.
Maintenant, 95.2, nous sommes en compagnie de Valérie Collin-Simard et vous venez d'écouter la chanson Âme du Monde, extraite du nouvel album de Nicole Rieux, notre interprète et chanteuse favorite. Album intitulé AA, produit par Yvan Châtaignier et distribué par Musidisc. Valérie Collin-Simard, journaliste littéraire au magazine Psychologie, vous êtes l'auteur donc du livre Plus fort que le destin, où 9 personnalités témoignent de leur expérience de lâcher prise et surtout de reconstruction de leur vie après une très lourde épreuve. Alors en écoutant leurs témoignages, certains propos sont-ils entrés vraiment directement en résonance avec votre vécu personnel? Est-ce qu'il y a des, quand vous les avez écoutés, est-ce qu'il y a des choses qui se sont éclairées par rapport à votre propre cheminement?
Mais j'allais dire tout.
Vous n'avez pas échappé à la moindre étape
Non, parce que je trouve que même dans le tout premier témoignage est un témoignage de camp de concentration. Mm-hmm. Et je crois que les étapes par lesquelles elle est passée, toutes ces personnes montrent de manière extrême, et comme avec une loupe, ce que chacun d'entre nous peut vivre au quotidien, y compris lorsqu'il traverse des petites épreuves. Mm-hmm. L'ambition de ce livre, c'était non seulement de pouvoir être utile à des personnes qui ont traversé des graves épreuves, mais aussi d'être utile à des personnes qui ont traversé des petites épreuves et et qui veulent, j'allais dire, en tirer profit, parce que c'est quand même mon intime conviction, c'est qu'on peut tirer profit des petites et des grosses difficultés de la vie.
Alors c'est étonnant, parce que dans votre livre, j'ai repéré une phrase, vous dites, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de petits ou de grands éprouvés, seulement des petites et des grandes épreuves. J'aurais dit plutôt le contraire, alors je vais un peu vous contredire, je pense qu'il y a plutôt des épreuves qui sont ce qu'elles sont, je dirais presque, l'épreuve est neutre, c'est la manière dont on les éprouve, donc c'est plutôt des grands éprouvés et des petits éprouvés, et que les épreuves vécues par deux personnes totalement différentes deviennent des catastrophes ou deviennent de simples passages initiatiques. Je suis assez étonné par cette...
Je crois que les deux se rejoignent. Est-ce que vous regardez le regard, ce qu'on porte sur l'épreuve, ou est-ce que vous regardez l'épreuve? Mais je pense profondément aussi qu'un divorce peut être aussi douloureux. Alors, pas que j'allais dire, le premier exemple qui me vient en tête, c'est le camp de concentration. Ça, c'est quelque chose d'un tout petit peu à part, donc peut-être pas. Mais qu'en tout cas, un divorce peut être aussi douloureux qu'une très très grave épreuve qui, de l'extérieur, peut passer pour plus difficile. Et je crois aussi profondément qu'on ne rencontre dans sa vie que les épreuves que l'on est capable de supporter et de surmonter.
Oui, il y a une phrase effectivement en spiritualité qui dit « Nul n'est éprouvé au-delà de ses possibilités ». Vous pensez que ça s'est vérifié à travers les témoignages que vous avez recueillis?
Oui, je crois je crois beaucoup à la vie. Et alors là, vraiment, vous me demandiez ce que j'ai pu tirer à titre personnel de ce livre.
Oui.
C'est vraiment peut-être l'essentiel, c'est-à-dire que ça a renforcé ma foi dans la vie et dans le fait que la vie nous veut du bien. Et que tout ce qu'elle nous envoie, c'est parfois, c'est comme un papa très, 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 ou une maman très, très sévère, mm-hmm. qui ne nous épargne pas, mais au finish, c'est pour notre bien.
Est-ce qu'on y parle d'amour dans ces témoignages? Est-ce que l'amour est présent comme facteur de reconstruction?
Ah, mais seul l'amour guérit.
non, c'est trop facile.
non, je le crois, c'est effectivement maintenant une phrase qui est devenue peut-être un peu bateau et qu'on entend souvent, mais je le crois profondément. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est la vie. Donc, et qu'est-ce que c'est que la maladie? C'est ne pas laisser passer la vie. Donc, on revient toujours à l'essentiel, c'est revenir à la vie, revenir à l'amour. Et l'amour, alors, c'est pas de l'amour au sens forcément sentimental, qui lui peut être une épreuve en soi. Au contraire.
Bien sûr. Vous avez dit tout à l'heure que chacun de ces témoignages, enfin, il y avait des points communs entre tous ces témoignages. Et est-ce que, bon, l'amour doit en faire partie, évidemment. Mais quels sont ces autres points communs qui réunissent tous ces témoignages? Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a des étapes qui sont les points communs, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a des hommes, il y a des femmes. Est-ce qu'il y a des points communs propres aux hommes dans cette reconstruction et des points communs propres aux femmes?
Ça me demande un petit peu de réflexion, j'avais jamais réfléchi, donc, parce que effectivement les points communs que j'ai trouvés, c'était les points communs, et ce sont les 7 étapes de reconstruction, c'est à travers la reconstruction. Maintenant, dans leur personnalité propre, ce sont, oui, peut-être des personnes qui sont peut-être plus avides d'absolu que les autres.
Oui. Comment ça se traduit, ça, dans le quotidien?
Ça se traduit, par exemple, c'est le cas de Patricia Corr, qui était une ex-droguée, une ex-alcoolique. C'est-à-dire quand elle a arrêté la drogue, elle s'est plongée dans l'alcool 10 fois pire.
Ah, c'est logique, oui.
7 tentatives de suicide. Enfin, elle est passée par une destruction énorme. Et en fait, c'est quelqu'un qui... Peut-être qu'ils aiment la vie plus que les autres. Voilà, c'est ça. Elle cherchait absolument, et ses suicides, elle le dit elle-même, c'était une manière d'être plus heureuse.
D'appeler la vie.
D'appeler la vie, voilà. C'était des appels à la vie. Et maintenant, c'est une femme qui réussit. Elle a 36 ans. Elle s'en sort magnifiquement à la fois dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Elle est très heureuse, très épanouie. Elle s'accepte telle qu'elle est. Ça a été après une descente aux enfers. Et elle, vraiment, l'exprime. Et c'est peut-être le point commun que je trouverais entre tous ces témoignages.
Vous avez dit il y a quelques minutes, la vie nous veut du bien. Est-ce que quand on vit une épreuve, c'est quelque chose qu'on arrive à dire après l'épreuve, mais pendant l'épreuve, est-ce que c'est possible réaliser que malgré tout, au fond de soi, on sait que la vie nous veut du bien?
Oui. Je pense, mais ça, il faudrait. On ne peut pas parler au nom de au nom des autres. Donc, moi, j'ai la conviction que
c'est
cette conviction-là qui m'anime, c'est que la vie nous veut du bien.
Nous allons retrouver Valérie Colasina dans quelques minutes. Elle nous décrira donc les fameuses 7 étapes en détail du lâcher prise qui permettent de transformer n'importe quelle épreuve, aussi importante soit-elle, en victoire sur le destin. Et dans quelques secondes, nous allons passer à notre séquence Air du temps. Donc nous avons écouté pour vous quelques nouveautés dans le domaine de la relaxation, des musiques de relaxation, du bien-être, mais aussi des musiques plus méditatives. On va écouter le premier album Banzai Garden, c'est de Midori. C'est pour une atmosphère, disons, de sérénité, grâce à la flûte shakku, mais aussi au koto, à la guitare, aux percussions et au clavier, pour nous donner l'impression que ce jardin du bonsaï n'est pas tout à fait sur terre.
Thank you.
l'esprit grégorien est trahi, en tout cas certains le pensent, moi personnellement je trouve que le résultat est plutôt honnête, en tout cas c'est une autre façon de se relaxer, mais peut-être pas effectivement de contempler. 42 minutes 10, label New World Music, et c'est DG Diffusion, toujours Pure Music, un excellent distributeur, qui nous offre ce Gregorian Harmony. On va écouter maintenant une Québécoise qui vit en France depuis pas mal de temps, avec un album qui s'appelle Création. Alors, Jacotte Chollet nous dit que c'est une ouverture dans les domaines de la créativité, de l'intuition, de l'inspiration et de l'esprit. Je trouve que c'est assez ambitieux. Son auteur, Jacotte Chollet, parle de sa musique comme étant une musique multidimensionnelle. À l'écoute du cœur, à l'écoute de soi. Il y en a pour 63 minutes 33. MMD Productions, MMD comme musique multidimensionnelle, et c'est toujours DG Diffusion qui diffuse. Un petit peu de sophrologie avec William Bonnet et sur une musique de Lacheneau. Respiration, détente, mieux-être, autosuggestion et visualisation sont les outils qui caractérisent la sophrologie. Maintenant communément admise vraiment dans tous les milieux, ce disque vous guide vers la sérénité mentale et vous permet d'augmenter votre potentiel énergétique. La séance est guidée par la voix de William Bonnet.
Vous êtes installé, soit par terre, soit sur un divan. Vous fermez les yeux et vous ressentez les points d'appui de votre corps sur la surface sur laquelle il repose. Ressentez votre tête bien soutenue, votre dos bien encastré. Percevez les sensations au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des omoplates, des reins, des fessiers.
Voilà, donc après avoir relaxé les fessiers, la séance est bien guidée par la voix de William Bonnet. L'enregistrement quand même est de qualité et la conduite de la détente très complète, je vous l'assure. Quant à la musique d'accompagnement, moi je la trouve tout à fait acceptable. Il y a même parfois des connotations indiennes qui sont très très jolies. Et Valérie Consimard, êtes-vous sensible vous-même à la musique ?
Oh, je crois que c'est impossible de ne pas être sensible à la musique.
Non, on ne sait jamais. Il y a des gens qui préfèrent les bruits de la nature et toute musique, disons, plus artificielle créée par l'homme ne les sensibilise pas. Vous-même, vous... qu'est-ce que vous écoutez ?
Mais alors, j'allais vous ajouter que j'écoute relativement peu de musique parce que je suis un tout petit peu monomaniaque et je lis beaucoup de livres et je n'arrive pas à faire deux choses, enfin, je ne veux pas faire deux choses à la fois. J'ai beaucoup de mal à lire un livre tout en écoutant de la musique.
Je ne sais pas si vous... Oui, vous avez parlé dans votre livre de Beethoven comme étant, bien sûr, à travers son épreuve de la surdité, ça ne l'a pas empêché de créer. Donc, il a nécessairement passé, lui aussi, il a été plus fort que le destin, en quelque sorte. Et vos témoins, est-ce qu'ils ont eu recours à la musique à un moment donné, pour se reconstruire?
Non, je n'ai pas rencontré de personnes qui avaient rencontré la musique pour se reconstruire, mais on peut tout à fait imaginer qu'une personne pour qui la musique a beaucoup d'importance puisse se reconstruire à travers la musique. C'est tout à fait envisageable.
On parle de musicothérapie, on peut imaginer que pour certaines personnes, il ne faut pas hésiter à aller écouter les choses qu'on aime, les musiques qu'on aime, pour pouvoir retrouver un petit peu, retrouver pied, quoi, tout simplement.
Oui, alors il y a quand même Juliette Giraud qui a vécu la très grave épreuve de l'inceste et qui parle beaucoup des petits bonheurs quotidiens. Mmh. Et elle a réussi à surmonter tout un passage de sa vie, justement, en sachant jardiner, en sachant bricoler avec ses mains, en faisant beaucoup de choses d'ordre artistique. Je ne sais pas si la musique en faisait partie, mais cela aurait pu.
Merci beaucoup Valérie, on va passer maintenant, puisque c'est la fin de l'ère du temps, notre séquence ère du temps. Nous allons passer au jeu des questions et je vais demander dans quelques instants à Daniel de vous présenter la première question.
Alors la première question que nous soumettons à nos auditeurs est la suivante. Le soufisme est-il la branche mystique de l'hindouisme ou de l'islam? Vous pouvez nous appeler au 01 45 75 44 44. Donc je répète, le 01 45 75 44 44 à vos téléphones.
Voilà, donc je répète la question. Le soufisme est-il la branche mystique de l'hindouisme ou de l'islam? En répondant de manière exact, vous allez pouvoir gagner des places pour le spectacle Le Vent du Temps qui passe, qui a lieu du 9 au 12 mai à Paris, au théâtre de Menin-Montant. C'est un spectacle tout à fait original qui allie à la fois les contes initiatiques, les chorégraphies, la musique vivante sur scène et la projection d'images. Et en attendant la bonne réponse, Valérie Collin-Simard, je me posais la question de la spiritualité, puisque là, la question y fait allusion. Est-ce que la spiritualité des personnes que vous avez rencontrées a été un élément de reconstruction?
Ah, c'est même une étape de reconstruction. La spiritualité, ça passe forcément à un moment donné. Spiritualité au sens très large, c'est-à-dire que spiritualité au sens, ça peut très bien être vouloir aider les autres, ça peut aussi changer de croyance, changer de regard sur le monde, mais la spiritualité, et puis aussi, ça passe beaucoup par l'irrationnel. Pas beaucoup, mais je veux dire, beaucoup de personnes qui ont traversé ces épreuves, à un moment donné ou à un autre, ont rencontré l'irrationnel sur leur route.
Par exemple, parmi vos témoins, cette présence de l'irrationnel, comment elle s'est manifestée?
Alors, par exemple, justement, Joseph Gourand, qui a traversé l'épreuve du camp de concentration, lorsqu'il était dans un... Alors, c'est vraiment, on ne peut pas trouver plus rationnel que lui. Mmh. Et lorsqu'il était dans les wagons à bestiaux, qui l'ont conduit là-bas, il a été un peu rattrapé par une présence invisible. Normalement, il aurait dû mourir, il aurait dû mourir étouffé. C'est vraiment une force invisible qui l'a propulsé à l'autre bout du wagon sans que c'est pu être expliqué. Sinon, Juliette Giraud a senti la mort de son père. Mmh. Au moment de la mort de son père, elle a été vraiment consciente, alors que ça ne se passait pas au même endroit. Elle a senti sa présence. Voilà, donc il y a eu des événements irrationnels qu'ils ont tous vécus comme si à une espèce d'attitude intérieure répondait un appel de l'au-delà. Je ne sais pas, en tout cas c'était comme un appel pour eux.
Une ouverture en tout cas.
Une ouverture.
Et est-ce que parmi vos témoins, certains étaient croyants, voire même pourquoi pas pratiquants et se sont... attachés, se sont sentis soutenus par le credo, je ne sais pas, de leur religion par exemple?
Oui, Kim Guénard a rencontré la foi. Mmh. Et donc, croire en Dieu pour lui a été un grand soutien. Et j'ai envie de dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées croient au moins en la vie. Et la spiritualité a été pour elle tout un soutien, oui.
Et par rapport à votre expérience personnelle, est-ce que la spiritualité a été aussi un moyen pour vous eh bien, de reconnecter avec votre authenticité personnelle et puis de vous reconstruire aussi?
Oui. Oui, oui, j'ai reçu une éducation très matérialiste et je crois que j'ai rencontré la foi, en effet.
C'est curieux, hein, vous êtes maintenant interrogé alors que vous avez écouté les autres personnes. On revient donc à notre question, le soufisme est-il la branche mystique de l'hindouisme ou de l'islam? Anne, est-ce qu'on a des réponses qui arrivent? Pas encore. D'accord, et bien tant mieux, comme ça on va passer un peu plus de temps avec notre invitée Valérie Colin-Simard. Donc dans ce dossier sur le lâcher-prise du magazine Les Trois Mondes, vous avez détaillé les 7 étapes donc, de cette reconstruction. Alors je pense que c'est important de pouvoir à nouveau les écouter, les décrire. Première étape d'une reconstruction après une épreuve, c'est
renoncer à être victime.
Alors comment ça se manifeste? Est-ce qu'on sait qu'on est une victime d'abord?
Non, au départ on ne sait pas du tout qu'on est victime. On se sent absolument victime, on n'a aucun recul par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on est une victime, point fin. Il faut à un moment donné que la prise de conscience en général se fait très progressivement. Celle qui en parle le mieux est peut-être justement Marie-Lise Labonté, donc qui aurait dû normalement finir ses jours dans une chaise roulante et qui est aujourd'hui en pleine forme. Et elle a compris que être victime, ça offrait beaucoup d'avantages secondaires. C'est-à-dire que ça permettait de se sentir important, ça permettait de se sentir un être à part, ça permettait de se sentir exister, on s'octroyait certains privilèges auxquels d'autres n'avaient pas droit. Il y avait beaucoup d'avantages à se sentir victime. Et elle a compris aussi qu'il fallait qu'elle accepte de renoncer à tous ces avantages et qu'elle fasse le choix de la vie. Et qu'elle accepte finalement d'être victime, c'est un peu se comporter comme un enfant. Et à un moment donné, il faut décider de devenir adulte.
Victime, martyr, c'est la même chose ou il y a des nuances?
La nuance, c'est dans le degré. C'est-à-dire que le martyr, c'est carré, là, j'allais dire, c'est irrémédiable. C'est-à-dire que c'est vraiment l'absolu. C'est-à-dire que c'est vraiment, on vit à travers ça. Si on se autoproclame martyr, je ne parle bien entendu pas des martyrs...
pour une cause politique, par exemple.
Oui, ou pour une religion, ou pour une... Oui. Oui, enfin, je ne parlais pas en tout cas des martyrs chrétiens. Mais que si on s'autoproclame martyr, on est assuré d'avoir l'existence à vie. Le bénéfice secondaire est énorme. Mm-hmm. Donc c'est désespéré, selon moi.
Alors donc, accepter de ne plus être victime, ça, c'est la première étape, et pourtant elle me paraît déjà une étape capitale, je dirais pas insurmontable, mais accepter de renoncer à être victime, c'est quelque chose d'important quand même. Il faut vraiment être profondément, entre guillemets, brisé, déstructuré pour passer par cette première étape. J'ai l'impression que si l'épreuve n'est pas suffisamment forte, ma foi, on peut continuer bon an, mal an, son chemin. Et j'ai l'impression qu'à travers les 9 témoignages, vous l'avez dit d'ailleurs, ce sont des témoignages extrêmes. Et c'est parce que ces épreuves sont extrêmes eh bien que les personnes ont réussi à franchir la première étape.
Oui, enfin, c'est pas une obligation parce que beaucoup auraient pu en mourir. Mm-hmm. Marie-Lise Labonté avait été atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde. Elle commençait petit à petit, lentement, à devenir entièrement paralysée. Et elle aurait pu continuer dans ce chemin-là et choisir, parce qu'il me semble qu'il s'agit d'un choix, de rester ainsi. Elle a voulu se battre pour lutter pour la vie. Et ça demande vraiment un gros travail sur soi-même et beaucoup de courage. Donc je pense que pour des petites ou pour des grandes épreuves, le choix est là. Il doit se faire.
Il doit se faire, surtout. Daniel Gentil, est-ce qu'on a une réponse à notre question?
Oui, on a eu 3 bonnes réponses. Alors je rappelle la question. Le soufisme est-il la branche mystique de l'hindouisme ou de l'islam? Et bien entendu, la réponse, c'était l'islam. Donc trois auditeurs qui ont donc gagné des places pour assister au spectacle dont vous avez parlé tout à l'heure.
C'est parfait. Et ces places pourront être retirées à la radio ici et maintenant au 8 rue Violet dans le 15e à Paris. Valérie Parasima, première étape donc de cette reconstruction après une épreuve, c'est ne plus être victime, ne plus être martyr. Et vous avez dit tout à l'heure, la seconde étape, c'était d'accepter finalement de toucher le fond, c'est-à-dire là où on n'a pas envie d'aller, vous nous dites qu'il faut y aller.
Oh, c'est pas il faut y aller.
C'est, on y va.
Non, je crois que c'est pas il faut y aller, c'est que pour beaucoup ça a été nécessaire d'aller jusque-là, hein, parce que bien entendu ce ne sont pas des obligations, il suffit pas pour devenir un être humain épanoui, on n'est pas obligé de passer par l'épreuve. Et quand on passe par l'épreuve, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de l'épreuve. Mm-hmm. Si on comprend suffisamment vite ce qu'il y a à comprendre, tout ce chemin nous est épargné, bien entendu. Donc toucher le fond, malheureusement, beaucoup ont été obligés de passer par là. Et pour comprendre qu'ils devaient changer leur façon de penser, ils étaient ancrés dans leur certitude. Je vous disais tout à l'heure qu'un grand point commun entre toutes ces personnes, c'était d'être avide d'absolu. C'est très sympathique, a priori, dans une certaine mesure.
Oui, c'est vrai.
Enfin, parce que ce sont des personnes entières, mais ça donne aussi des personnes très intransigeantes et très déterminées et très rigidifiées et sclérosées dans leur certitude, parfois. Donc il a fallu beaucoup de courage pour eux, de vraiment ça a été pour eux un effondrement. Et ils sont presque passés pour beaucoup par quelque chose qui s'apparente à la mort ou à quelque chose qui touchait très très près pour arriver à changer leur regard sur la vie.
Et, curieux, vous nous parlez déjà des deux premières étapes et il y a pour moi le maître mot qui ressort déjà, c'est accepter. Est-ce que dans la bouche de ces 9 témoins que vous avez pu écouter, ce mot accepter est toujours revenu?
Sans doute. En tout cas, dans l'esprit, oui, parce que la première chose, en général, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de se...